en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un quadragénaire barbu, souvent avec une casquette vissée sur la tête. Dans la musique électronique, on l'appelle Mister Oiseau. Derrière la caméra, il officie sous son vrai nom Quentin Dupieux. Son 8e long métrage a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs lors du dernier festival de Cannes. Il met en scène un quadragénaire barbu, souvent avec un chapeau vissé sur la tête et une petite caméra à la main. Et sur le dos, un vêtement qui est en passe de devenir le blouson andin le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Le Dain, un film de Quentin Dupieux, donc, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, sort demain sur les écrans français, et vous m'en direz des nouvelles.
Vous parlez de mon blouson ?
Pourquoi on parlerait de ton blouson ?
Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
Oh, cool, le pantalon.
Juste cool.
T'es sûr?
T'as bien regardé là?
Bah oui.
Ouais. C'était pas mal.
Bonjour Quentin Dupieux.
Salut.
C'est avec le personnage de Georges que le spectateur entre dans le film. Georges, c'est donc Jean Dujardin. C'est lui qui va faire l'acquisition de ce fameux blouson andin repéré sur Internet. Quand il voit ce blouson, Georges pousse une exclamation. Est-ce qu'on peut dire que la rencontre entre le blouson et Georges, c'est un coup de foudre amoureux?
Est-ce qu'on peut dire ça? On a souvent résumé ce film comme ça. Un type tombe amoureux de son blouson. En fait, à force d'en parler, parce qu'on me pose la question, en fait, avec Jean, on a pris l'habitude de répondre qu'en fait, c'est pas un mec amoureux de son blouson du tout. C'est un mec qui se parle tout seul et qui a besoin d'un objet pour transférer quelque chose. Mais
alors, est-ce que c'est un gamin? Alors, parce qu'effectivement, il y a plusieurs scènes du film où on voit Jean Dujardin parler avec son blouson. C'est un vrai dialogue. Hein. C'est Georges lui-même qui transforme sa voix pour faire celle du blouson, et ils peuvent comme ça dialoguer ainsi. Alors, est-ce que c'est un enfant qui joue à la poupée ou à des petites figurines?
Bah, c'est ça. En fait, ça ressemble beaucoup à un gamin qui jouerait avec des Barbie, on va dire, qui fait parler les bonhommes.
Pour ne pas citer de marque, voilà.
Voilà. Non, Klaus Barbie, je parlais de. Ouais. C'est pas une marque.
Non, c'est moins drôle quand même.
Ouais, c'est moins drôle. Non, mais en fait, mais c'est la version adulte. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a tous. Ça nous arrive tous de parler en voiture. Moi, assez vite, quand je suis tout seul, au bout de quelques jours, en fait, je fais des dialogues à voix haute, non pas pour le cinéma, mais parce qu'en fait, on a besoin d'occuper l'espace, que le silence, ça fait un peu peur. En fait, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il, oui, ça commence comme ça. Il commence à filmer son blouson et il commence à chercher la voix du blouson. Voilà, j'ai pas envie de trop révéler, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. En fait, il découvre qu'il a envie de faire parler son blouson de cette façon-là. Et après, en fait, c'est un dialogue intérieur. C'est un mec qui se parle tout seul et qui est complètement givré.
Ah, il est complètement givré. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que c'est un fou. Parce que givré, c'est plus gentil que fou quand même. On n'est pas tout à fait
c'est vrai,
au même niveau que la. Parce que la folie, on peut dire que c'est une maladie. On peut dire que ça peut faire peur. La folie, elle peut être meurtrière. Alors, aussi, t'as dit que givré, c'est un gentil fou. Quoi.
Ah d'accord. Ouais, non,
c'est de la folie douce. Quoi.
C'est vrai. Bah, moi, c'est ça. Givré, c'est pour être tendre avec le personnage. C'est qu'en fait, je le trouve. On l'aime, ce personnage dans le film. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Hein, j'ai assisté à plusieurs projections.
Oui, il est un petit peu comme nous, quoi.
Bah, il est vraiment comme nous.
Il est vraiment. Peut-être plus comme vous que comme moi, si non, je peux me permettre.
C'est un voisin de palier, c'est un mec qu'on voit partout. En fait, moi, des mecs qui parlent tout seuls dans la rue, j'en vois quasiment tous les jours. En fait.
J'avoue que ça m'arrive, hein, moi aussi, quand même.
Oui. Bah, bien sûr, oui. Non, on est tous un tout petit peu fous. C'est effectivement une folie ordinaire. Et après, comme c'est un film de cinéma, bon, bah voilà, le film glisse vers quelque chose qui est assez rare et qui n'existe pas vraiment.
Vous me rassurez.
Mais oui, bien sûr, évidemment, on n'a pas tous des pulsions meurtrières. Mais d'ailleurs, en fait, pour en terminer avec ce truc de meurtre, c'est que c'est pas des pulsions meurtrières. C'est pas un mec qui tue pour le plaisir de tuer. En fait, c'est un mec qui tue parce qu'il a un projet avec son blouson. Ça, on va pas le révéler. Mais en fait, c'est pour accomplir un projet. C'est pas pour tuer. C'est pas un mec qui a le goût du sang. C'est pas American Psycho.
Pas du tout. Mais alors, ce blouson andin, Quentin Dupieux, pour le comédien qu'est Jean Dujardin, c'est un accessoire ou c'est un partenaire? Puisqu'on parlait de dialogue tout à l'heure.
Vraiment un accessoire.
Un accessoire, mais très important.
Oui, mais je réponds pour lui, parce qu'en fait, pareil, je l'ai entendu parler plein de fois, on lui a posé la question. En fait, il a cru 5 minutes qu'il allait projeter un truc plus important sur ce blouson, et en fait, au final, c'est un blouson posé sur une chaise. Mmh. Et comme je l'ai dit en préambule, ça n'est qu'un blouson, finalement, et on aurait pu faire le même film avec une casserole ou n'importe quoi.
Alors pourquoi un blouson? Comment est-ce que l'idée vous est venue?
Pourquoi? Le problème, c'est que quand je réponds à ces questions, en fait, c'est après coup, et du coup, en fait,
il y a bien un moment où l'idée a éclos dans votre cerveau.
Mais j'aime pas donner la sensation que tout est pensé, parce qu'en fait, c'est là où ça devient un peu ennuyeux, le cinéma théorique. Alors en fait, moi, j'ai choisi un blouson parce que l'idée me plaisait, c'est aussi bête que ça. C'est de la même façon que j'ai choisi un pneu pour faire mon film Rubber, parce que l'idée me plaisait. Et ensuite, on me pose la question, donc je fabrique des petites réponses au fur et à mesure de la promotion du film. Et puis en fait, on se rend compte, ah oui, c'est vrai que le blouson, c'est un peu comme changer de peau. Ah tiens, c'est un blouson en daim, donc la peau, etc. Mais tout ça, moi, ça m'ennuie profondément. C'est-à-dire que je laisse les gens s'amuser avec ces codes-là, parce qu'en fait, c'est un film qui est ouvert. On s'est rendu compte que les gens projetaient un peu ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui est chouette, en fait, parce que les films tout fermés, où on explique tout, et où le spectateur est juste passif à recevoir les informations, c'est un truc qui m'intéresse moins.
Mais alors, le pneu Rubber, ça fait deux objets, et c'est vrai que souvent, les objets dans vos films, Quentin Dupieux, sont au cœur de l'histoire, sont même peut-être les moteurs de la narration. Qu'est-ce qui vous fascine dans les objets du quotidien, quoi, les objets que nous avons tous croisés,
ouais.
Ne serait-ce une journée.
Alors je n'en sais rien. On peut faire un parallèle entre les deux films, bien que voilà, il y en a un où, puisque les gens ne sont pas forcément au courant, il y en a un, c'est un pneu vivant.
Oui.
Donc pour le coup, il y avait un challenge. Il fallait rendre ce pneu vivant et on a même réussi. C'est là où le film est. Il y a des petits morceaux qui sont très réussis dans le film, parce que le film n'est pas exceptionnel, mais il y a des petits bouts où le pneu, on a l'impression de le voir penser. Il y a un moment, il s'arrête à une flaque d'eau et il boit de l'eau. Voilà, tout ça, c'était passionnant à faire. Donc là, c'était plutôt donner vie à un objet complètement nul, qui est un pneu. En fait, on en voit partout dans la rue. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Un pneu, c'est rond. Il y a un truc, c'est impossible de projeter un visage. C'est une espèce de, un morceau de caoutchouc insignifiant. Donc, c'était un autre monde, en fait. Donner vie à ce pneu. Alors que là, je me suis concentré, moi, sur la folie d'un personnage. Et en fait, c'est le génie de l'acteur, en l'occurrence, Jean Dujardin, là, qui remplace largement ma petite technicité avec le pneu, c'est-à-dire que en gros c'est la folie de Jean qui donne peut-être l'impression que ce blouson est habité ou peut-être vivant par moment, mais en fait ça n'est qu'un blouson.
Alors on ne sait pas effectivement d'où vient cette obsession pour la veste, hein, cette forme de folie. Il est un peu givré, comme vous le disiez il y a un instant, Quentin Dupieux. Qu'est-ce que vous avez dit à Jean Dujardin pour lui permettre d'entrer dans son personnage?
Pour le convaincre ou le faire rentrer dans le film?
Pour le faire rentrer dans le personnage.
Ok, une fois qu'il avait accepté. Bah, c'est très simple, en fait, on s'est accordé à dire, parce qu'en fait, quand on embarque un mec comme Jean sur un film comme celui-là, en fait, il s'agit pas de lui commander des choses. Il s'agit d'avoir envie du même film tous les deux. Donc, en fait, on s'est accordé tous les deux à avoir envie d'en faire un film réaliste, en fait, d'un personnage, d'en faire un personnage réaliste, voilà, qui ne soit pas une caricature du fou, qui soit pas un truc exagéré, puisque nous deux, on a l'habitude finalement on est connus tous les deux, enfin voilà, lui beaucoup plus que moi, mais de la même façon pour des trucs un petit peu exagérés, un petit peu extravagants et un peu délirants, on va dire,
oui, un tout petit peu. Oui.
Voilà, et Jean, on l'a vu complètement, voilà, encore une fois givré, mais très haut en couleur dans plein de films. On avait tous les deux envie de la même chose, on avait envie d'un truc très calme et presque d'un sous-jeu.
Donc un jeu plutôt en retenue, quoi, d'une certaine façon. Le risque, c'était d'en faire trop.
Bah oui, de toute façon, c'était un autre film. Après, il y avait une version grotesque de ce film, complètement débile, où on se serait amusé. Il y avait peut-être un film à trouver là-dedans, mais en fait, celui-là ne nous intéressait pas à ce moment-là. On avait envie, nous, d'un film... Et en fait, c'est même pas un non-jeu. En fait, l'idée, c'était d'avoir accès en fait à une zone de Jean Dujardin qu'on ne connaît pas, quoi,
faire quelque chose de différent,
un truc, oui, mais c'est pas la quête, c'est pas le différent, la quête c'était le réalisme, voilà. Et en fait, effectivement, ça, on a vu Jean dans des voilà, beaucoup dans des comédies. Il a aussi beaucoup exploré d'autres genres, des films plus calmes, plus sombres, etc. Mais cette zone là ce réalisme là avec cette folie dans les yeux, cette folie douce, on ne connaissait pas.
Oui, dans les yeux, parce que c'est vrai qu'il joue... Alors, il joue pas tellement avec ses yeux au sens où il y a des hausses de sourcils, etc. Pas du tout. Il y a effectivement un visage qui est à la fois impassible et complètement expressif. Quoi. Ouais, c'est ouais. Ça qui est assez paradoxal. Ça, il y a beaucoup de tristesse, je trouve, dans les yeux de Jean Dujardin. Vous avez travaillé ça avec lui?
Non, on a travaillé le lâcher prise, en fait. C'est là où c'est dur à résumer, mais c'est comme s'il jouait pas. En fait, il est venu. Moi, le mec qui est venu sur mon plateau, c'est le personnage que j'ai filmé. En fait, il y avait pas une rupture entre action et coupé. Il savait ce qu'il faisait. Le film était écrit, on respectait le texte, etc. Mais c'était quand même un mec habité par cette espèce de truc un peu, voilà, moi je dirais plutôt mélancolie, voilà, c'est, on imagine que c'est un mec qui a perdu sa vie. Après, on se raconte ce qu'on veut. Et je pense que
oui,
Jean.
Parce qu'on sait très peu de choses finalement sur lui, sur sa famille, sur son boulot, etc. Vous avez pas eu envie de lui donner un passé, de creuser davantage ce personnage?
Si, si, si. En fait, on a même tourné des scènes qui présentaient le personnage dans sa vie d'avant, on va dire. Mais je me suis très vite rendu compte au montage que c'était pas intéressant, en fait, et que ça posait encore plus de questions. C'est-à-dire que, en fait, en vrai.
Il fallait ne pas montrer.
Ce que j'ai tourné, oui. En fait, il aurait fallu, c'était pareil, hein, c'est un autre film, hein, il aurait fallu décrire pendant presque un tiers la vie de ce mec pour que ce soit intéressant de le voir chavirer, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la glissade, donc. Bon. Les petites scènes que j'avais de sa vie d'avant, on va dire, ne donnaient que trop peu d'indices. Et en fait, ça faussait le film. Ça faussait le film parce qu'on pensait qu'on allait expliquer et qu'on allait parler de pourquoi la chute, alors qu'on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est comment la chute et qu'est-ce que ce mec va faire de sa liberté et qu'est-ce que ce mec va faire de sa fuite. Plutôt que pourquoi, parce que voilà, on imagine, effectivement, on entend un coup de fil avec sa femme, après on imagine ce qu'on veut. Mais les raisons ne sont pas très intéressantes pour moi.
Et un soir, dans un bar de montagne, Georges se retrouve accoudé au comptoir devant un verre avec son fameux blouson andin sur le dos et il surprend quelques chuchotements entre une autre cliente et la barmaid.
Je sais pas.
Vous parlez de mon blouson? Là, vous êtes en train de parler de mon blouson, là.
Non.
Ok, pardon.
Pourquoi on parlerait de ton blouson?
Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Et je suis habitué à ce que ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon.
Ah, vraiment? Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens?
Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
T'es pas du coin, toi. Hein?
Je viens d'arriver, là.
Mais il a peut-être pas envie qu'on le tutoie direct comme ça.
Ça va, tout va bien, c'est bon, c'est cool.
Et il fait quoi dans la vie, alors, à part frimer avec son dain, là? On peut savoir?
Là, je suis au bar. Je bois tranquille un verre, là.
Non, mais je veux dire que métier, il fait quoi?
Voilà, on ne saura pas, en tout cas dans cette émission. La cliente, c'est Marie Bunel, hein, oui, Quentin Dupieux. Oui. La barmaid qui se prénomme Denise, c'est Adèle Haenel, qui petit à petit va entamer la conversation avec Georges. On ne va pas tout dévoiler, hein, évidemment, mais ces deux personnages-là, Denise et Georges, ils étaient faits pour se rencontrer.
Bah, j'ai l'impression, ouais, c'est un peu deux solitudes qui se rencontrent. Après, c'est un film, donc c'est ça qui est marrant, hein. On fait ce qu'on veut et on fait rencontrer deux personnages et puis on s'invente des histoires. Mais effectivement, on peut dire, hein, c'est une nana qui s'ennuie derrière un bar et qui pratique le montage.
Voilà, le montage cinématographique, hein,
exactement.
En l'occurrence. Et c'est vrai que c'est autour du cinéma que la rencontre va se produire, parce que bon, il y a eu ce cadeau bonus, hein, lorsqu'il a acheté le blouson en daim, on lui a donné un caméscope en bonus, qui est plutôt pas mal comme petit bonus. Et donc il va prétendre qu'il est cinéaste et qu'il est sur place là dans ces montagnes pyrénéennes pour tourner un film. Ça intéresse beaucoup Denise, puisque donc Denise s'intéresse beaucoup au cinéma et pratique l'art du montage. D'ailleurs, l'autre jour, au Forum des Images, juste avant la projection du film, l'animateur a expliqué que Le Dain était sans doute un de vos films les plus autobiographiques. Alors, je ne sais pas si vous portez un blouson en daim, mais c'est vrai qu'il y a ce personnage qui fait du cinéma de façon peut-être un petit peu artisanale, avec une petite caméra. C'est un peu vous,
oui,
le personnage de Georges?
Bah non.
Au-delà de la dimension physique que je citais en introduction de l'émission.
Non, alors encore une fois, je vais paraître pour un imbécile, hein, mais tout ça est inconscient. C'est-à-dire que je me dis pas, je démarre pas mon scénario en me disant bon, alors cette fois c'est bon, je vais faire un film sur moi-même. C'est pas du tout le principe.
Mais vous en êtes rendu compte en...
Bien sûr, non, mais forcément.
En fabriquant un film.
Oui, je suis pas complètement fou non plus. Après, ça fait pas partie de la recherche. C'est-à-dire que. C'est des éléments qui me rassurent, c'est-à-dire que filmer ce mec qui me ressemble un peu avec une petite caméra vidéo que j'ai déjà eue dans ma vie, brancher cette caméra sur une télé, regarder des rushs.
C'est comme ça que vous avez commencé?
Un petit peu, ouais. J'ai été ce mec qui, moi, quand j'avais 15 ans, j'emmenais des copains dans la forêt et on essayait de tourner des petites scénettes avec une caméra qui était moins bien que celle-là. Et puis, c'était du tourner-monter, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de montage, on faisait tout dans la caméra, et puis en fait, il y avait une excitation, après on rentrait chez moi et on branchait la caméra et on regardait le résultat final immédiatement. Voilà, j'ai fait ça très longtemps avec des copains, donc c'était dur parce qu'il il fallait convaincre des copains qui étaient plutôt attirés par le football dans mon coin là-bas, et en fait, je débauchais des copains pour aller faire des petits films d'horreur, enfin pas que d'ailleurs,
Intéressant, petit film d'horreur comme par hasard.
Bien sûr. Ouais, non mais après évidemment, tout ça c'est on parle de ce qu'on connaît de toute façon si je faisais un film subitement sur le monde des coiffeurs, je serais un peu embarrassé, il
faudrait que vous seriez moins crédible. Alors.
C'est pas ça, il faudrait que je me documente, j'aurais peut-être moins d'idées, j'arriverais peut-être moins à projeter. Voilà, mais là effectivement Georges dans ce film, donc Jean son personnage, c'est la version adulte de ce que j'ai été quand j'étais gamin. Les meurtres voilà. En moi, hein, bien
mais alors
sûr.
Vous avez appris, oui, vous n'avez pas de sang sur les mains.
Non, t'as du pieu. Non, j'ai rien fait de mal. Non, voilà, même pas.
Alors, est-ce que vous aviez appris le cinéma dans un livre? Est-ce que vous aviez un manuel de cinéma ou vous êtes un autodidacte complet?
Autodidacte total, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai passé mon temps, ma jeunesse, à faire des courts-métrages vraiment pas bien. Des tentatives quoi, je n'ai jamais cessé à partir du moment où j'ai touché une caméra, c'est-à-dire vers 15 ans, peut-être un peu avant, une grosse caméra vidéo que mon père avait achetée, qui était très pénible à utiliser. Bon bah voilà, en fait à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé de tenter. En fait ça a toujours été des tentatives. Et puis jusqu'à il y a encore pas très longtemps, c'est pour ça que je dis tout souvent que je suis un amateur, c'est que j'ai toujours l'impression de tenter en fait. Là, ce film, je le dis partout, je l'ai abordé comme un premier film. Il y a beaucoup de tentatives en fait dans ce film. Il y a rien, il y a pas de pilote automatique quoi. Ce que j'appelle le pilote automatique, c'est cette espèce de façon standard de faire des films qui est très rassurante, où il suffit en fait de on a une scène à décrire, il nous faut un plan large pour montrer où sont les gens. Ensuite, on se rapproche et puis après, on fait 3-4 plans sur chaque personnage pour décrire l'action. On use les comédiens à jouer le même texte 55 fois. Et puis après, c'est le monteur qui fait le film. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle l'ennui standard du cinéma. Il y a plein de films qui sont faits comme ça et c'est pas grave. Il y a même des bons films qui sont tournés comme ça. Mais moi, ma quête, c'est l'excitation suprême, en fait. Et le bonheur, pour moi, c'est de monter quelques rushs formidables pour en faire un film, voilà.
Bonjour Yannick Vallée.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes réalisateur de documentaires, d'entretiens, d'émissions sur le cinéma, notamment avec Jean-Pierre Dionnet, Quartier Interdit sur Canal+, par exemple. Vous êtes aussi professeur de langage cinématographique et vous publiez, chèrement Colin, une sorte de manuel du cinéma, justement. Ça s'appelle « La grammaire du cinéma », sous-titré « De l'écriture au montage, les techniques du langage filmé ». C'est la deuxième édition. Alors, vous décrivez dans le livre les 4 phases successives qui conduisent à la fabrication d'un film, l'écriture, la préparation, le tournage et la post-production. Alors, c'est très pédagogique, c'est truffé d'exemples concrets, tirés de grands films français ou étrangers. C'est une façon vraiment très simple d'entrer à la fois dans l'histoire du cinéma et dans la technique, dans la narration cinématographique. C'est donc une sorte de manuel. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux étudiants en cinéma? Ça s'adresse à l'amateur? Ça s'adresse à un jeune Quentin Dupieux qui, contrairement à ce que lui a fait, aurait envie de se farcir un petit peu de quelques données, de quelques repères avant de se lancer dans le monde de la caméra?
Je ne sais pas si ça s'adresse à un jeune Quentin Dupieux, mais en tout cas, ça s'adresse à tous les autres dont vous avez parlé. Parce que Quentin, lui, il a plutôt été directement sur le terrain à utiliser la caméra et à tester, en fait. Tout ce qui est dans le livre, en fait, c'est avant tout un constat de ce qui existe dans le cinéma. Ça explique les notions, ça explique les règles, ce qu'est un gros plan, ce qu'est un plan large, ce qu'est tout ce dont Quentin a parlé tout à l'heure. Mais ça ne donne en aucun cas des recettes.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir... Après, du talent, il faut savoir mettre tout ça en forme, il faut avoir une idée aussi.
Voilà. Je dirais même qu'avant de lire le livre, si on veut faire du cinéma, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde qui va lire le livre, si on veut faire du cinéma, il faut d'abord avoir du talent, je pense. Et déjà avoir des idées.
Si je peux me permettre, il y a tellement de gens sans talent qui font du cinéma, est-ce qu'on ne peut pas rassurer les auditeurs? Rassurez-vous.
Qu'il n'est pas peur.
Je veux dire, on va dire du bon cinéma.
Ah oui, d'accord. Non, mais voilà. Ça, c'est, ouais, après la quête.
Vous avez des noms à qui vous pensez quand c'est...
Non, mais c'est même pas drôle de les citer. Non, mais après, mais en fait, c'est un autre cinéma. Mais c'est-à-dire que voilà, cette espèce de sous-cinéma qui est partout, mais qui est tolérable, enfin qui est ok. Moi, parfois, ça m'amuse d'en regarder. Hein.
Alors la première phase, en tout cas. Alors avant de parler de talent, la première phase, c'est l'écriture. Hein, mm-hmm. Donc ça veut dire l'idée. Déjà pour commencer, donc c'est ce qu'on appelle le pitch. Hein. Ça veut dire donc proposer le sujet, le résumer
en une ou deux phrases.
Donc en quelques lignes. Ensuite il y a le synopsis. Ensuite il y a le séquencier et ensuite le scénario. Vous pouvez nous expliquer déjà les différences.
Une fois de plus, tout ça c'est assez théorique en fait. Et je pense que même Quentin doit pouvoir en parler à ce niveau-là. Je pense que c'est jamais la même chose quand il va voir des producteurs. Parfois, des producteurs demandent un pitch, d'autres fois, ils demandent un synopsis. Parfois, le réalisateur va proposer une continuité dialoguée déjà un peu sérieuse. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est vrai que, par exemple, ce qu'on enseigne dans les écoles de cinéma, c'est qu'on part du tout petit, donc de l'idée, pour arriver au gros, c'est-à-dire le scénario terminé. C'est une façon, pour certains qui écrivent, par exemple, de se rassurer, d'avoir une espèce de continuité comme ça, de se dire, je passe étape par étape. C'est vrai que pour quelqu'un qui débute, je pense que ça peut être assez rassurant. Maintenant, si on a envie de se lancer directement dans un scénario dialogué, pourquoi pas? Si on est à l'aise, moi, il y a aucun souci. Au contraire, même, ça peut être assez intéressant.
Alors, pour le Dain, donc dans le dossier de presse qui est fourni aux journalistes, il y a marqué synopsis. Hein, et alors, quand on voit synopsis, ça peut faire peur à un journaliste parce qu'on se dit, oh là là, on va devoir se farcir des pages et des pages de mots un peu compliqués. Et en fait, donc, le synopsis, il tient même pas en une ligne, Quentin Dupieux. Donc là, on est même pas dans le pitch du pitch, quoi, si j'ose dire. Hein. Donc, je peux le donner intégralement, ce synopsis?
Ah oui, oui, allez-y.
Donc,
oui.
Le synopsis, ah bien, un synopsis. Georges, 44 ans et son blouson, 100% Dain, ont un projet.
Alors,
c'est court pour un synopsis.
Il faut savoir que c'est un synopsis. Là, c'est un autre synopsis. C'est-à-dire que ce serait pas un synopsis de financement ou de séduction.
D'accord. Donc les producteurs, ils peuvent pas se baser là-dessus pour vous faire confiance, même quand on s'appelle Quentin Dupieux.
Bientôt, j'espère, mais
pas encore.
Mais en fait, non. Mais moi-même, j'ai besoin de plus en fait pour être certain d'une idée. Ça, c'est le synopsis. En fait, celui-là, c'est le synopsis. Une fois que le film est terminé, qu'on se dit comment on parle de ce film. Et puis on essaye tout un tas de formules. Il y a eu plein de tentatives de synopsis qui étaient, en fait, on essaye toujours d'en dire un peu trop. Alors après, on essaye d'enlever des informations. Puis ça fait des phrases un peu compliquées ou chiantes même. Donc en fait, moi j'ai eu cette idée de me dire, bah, allez, en fait, faut aller au plus simple. Faut faire un truc. Faut aller à l'essentiel, puisqu'en fait, il faut ce synopsis. Il faut décrire le film. Voilà, comme pour Au Poste, le film précédent, j'avais mis, je crois que c'était un truc, un flic, un suspect, une garde à vue, enfin. En fait, appeler un chat aussi, c'est il y a un truc qui est sans essayer d'être malin ou de faire un truc, une phrase d'accroche vendeuse ou je ne sais quoi. Moi, j'appelle un chat en fait. C'est une façon de.
Ouais. Mais alors justement, quand on lit un synopsis qui fait cette taille-là, donc qui fait une petite dizaine de mots, on se dit que le scénario, lui, doit tenir sur un ticket de métro.
Ah bah non, puisque le scénario, c'est il y a les dialogues, il y a les descriptions. Non, pas du tout. Le scénario est un vrai scénario pour le coup. Et puis, alors celui-là, il est particulier. C'est que si on rentre dans le détail technique de ce script, je l'ai arrêté volontairement à la fin du deuxième acte. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième acte dans ce film, et c'est une des originalités, on va dire. Voilà, je peux pas.
Faut pas tout dire parce que évidemment l'effet de surprise compte énormément dans le plaisir du spectateur.
On dit pas pourquoi, mais de toute façon, j'espère que les spectateurs s'en foutent qu'on leur parle de trois actes ou de deux, parce qu'en fait, au final, on regarde un film et puis on a des sensations, et en fait, c'est très technique. En fait, même moi-même, quand j'écris un script, je ne réfléchis pas aux trois actes, et en fait, je m'en tamponne. Il se trouve que le cerveau humain a tendance à rationaliser les trucs. Donc, en fait, quand on pose des problématiques dans l'écriture, ben, il se trouve que, en fait, on a besoin, le cerveau humain a besoin de trouver des résolutions. Donc, en fait, souvent, mes films, bien qu'ils soient mal branlés, ben, en fait, ils retombent sur leurs pieds et il y a trois actes. Celui-là, non, il n'y a que deux.
Alors, imaginons, Yannick Vallée, que j'ai envie de me lancer dans le cinéma, que je ne m'appelle pas Quentin Dupieux, que je suis un tout petit peu moins givré que lui et que ses personnages, que je veux être un bon élève du cinéma. C'est quoi les règles d'un bon scénario?
Ouh là là.
Et du boulot là.
À quoi ça ressemble un scénario de cinéma? Ça ressemble effectivement à... Il parlait d'actes, il parlait de dialogue, ça ressemble à une pièce de théâtre?
Non, non, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un scénario, c'est... Après, on peut pas, on peut parler techniquement. C'est-à-dire, techniquement, alors c'est très très chiant à lire un scénario. Enfin, c'est la plupart du temps, c'est une description de chaque mouvement, de chaque de tout ce qui passe, de ce qui se passe. Il prend son verre d'eau, il le porte à la bouche, il boit, il s'étrangle, il devient tout rouge. Dialogue, machin, dit ça, etc. C'est au bout d'un moment, c'est assez pénible à lire. Parfois, après, il y en a.
Et pourtant, c'est ça qui doit convaincre. Et les comédiens.
Donc il faut,
quand
il faut
on essaie de les caster et les producteurs surtout.
Mais après, quand on est dans le métier, on a un peu l'habitude de lire ça, donc on arrive à transposer et à imaginer, parce que l'idée c'est quand même qu'un scénario, on puisse imaginer ce que va être le film, donc à le transformer en image en fait.
Alors dans Le Dain, on dialogue, donc on dialogue avec les mots. Hein, on dialogue aussi avec le regard. Par exemple, Georges, donc le personnage de Dujardin, il se regarde beaucoup dans son rétroviseur, dans les vitres de sa voiture lorsqu'elle est à l'arrêt, ou dans le miroir en pied de sa chambre. C'est d'ailleurs ce qu'il fait quand Denise vient frapper à la porte.
Ouais. Mais quoi?
J'ai regardé la nouvelle cassette. C'est complètement dingue, je suis à fond dedans. On peut en parler?
Tu veux faire une réunion?
Ouais. Tu me laisses entrer?
Ouais, mais tu t'enlèves ça, là.
Ça?
Oui. Bah, tu sais bien.
Tu enlèves ça, hein, ça c'est le blouson de Denise qui lui n'est pas en blouson rondin, hein, faut le préciser puisqu'évidemment on n'a pas l'image à la radio. Quentin Dupieux, on a l'impression quand on assiste à cette scène, mais quand on voit même l'ensemble du film, c'est vraiment ce que l'on ressent en particulier dans les scènes d'intérieur, on a l'impression d'un film que vous auriez tourné presque dans l'intimité avec une toute petite équipe qui comme ça les soirs de tournage se retrouve au coin du feu pour manger un bon ragoût et jouer au tarot. Ça s'est passé comme ça?
Alors presque. Après, il faut préciser qu'il y a, effectivement, moi je crée une situation où d'intimité avec les comédiens parce que j'aime pas avoir des spectateurs sur le plateau. Voilà, il y a pas de retour vidéo, par exemple, personne regarde ce qu'on tourne.
Pourquoi?
Bah parce que ça évite en fait, parce que voilà, ce qu'on appelle un combo, donc le retour vidéo, c'est comme une télé. Donc en fait, quand on installe une télé, les gens qui n'ont rien à faire pendant à ce moment-là, s'installent devant une télé et regardent la télé, et puis ça devient comme un truc, comme un spectacle, où en fait tout le monde s'ennuie à regarder un film en train de se faire, et il y a un truc un peu, voilà, moi j'aime bien garder la magie de ce que je tourne pour moi, et puis après voilà, je montre à l'équipe, je partage certaines images avec l'équipe pour les garder investis, donc en fait il y a ce petit monde qui tourne où on n'est pas nombreux, quand c'est en intérieur, hein, bien sûr, quand je peux mettre tout le monde à la porte, mais il y a quand même, voilà, j'ai pas envie de dire qu'on est seul, parce qu'il y a toute une équipe, il y a la production, il y a les gens qui nous font à manger, il y a la régie, il y a toute l'équipe technique, enfin il y a tout un tas de personnes qui s'agitent pour que le film soit possible, il y a la décoration, il y a les costumes, enfin il y a du monde quand même.
Bon, voilà. C'est toujours lourd, hein, effectivement, le cinéma, il y a Vallée. Donc dans votre livre, la grammaire du cinéma, hein, qui est paru, je le rappelle, aux éditions Armand Collin, vous parlez évidemment très précisément du tournage, des différentes notions techniques liées à la prise de vue. Il y a autant de façons de filmer qu'il n'y a de réalisateurs, écrivez-vous dans le livre. Quel regard est-ce que vous portez sur la façon de filmer de Quentin Dupieux?
Wow.
Ah, il fallait que vous posiez la question.
Quentin, c'est vraiment quelqu'un qui fait des essais, qui teste tout le temps.
Expérimentateur.
Ouais, un expérimentateur. Ouais, on peut tout à fait. On peut vraiment dire ça. J'irais même jusqu'à dire un avant-gardiste. C'est-à-dire que il essaye de trouver des formes nouvelles avec sa caméra. Alors pas forcément. Ça veut pas forcément dire accrocher la caméra à 50 mètres de haut en faisant des.
Oui, c'est pas forcément spectaculaire.
Non, pas forcément.
Enfin, bon, pardon.
Pas forcément. Mais c'est vraiment. Oui, c'est vraiment la mettre aux endroits cruciaux. Parce que ça veut dire quelque chose, mais c'est pas forcément là où on aurait eu l'habitude de la mettre. Voilà. Et en plus, après, ça résonne au montage. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, enfin, bon, en plus, Quentin monte ses films, et quelque part, je pense que ça se ressent. En tout cas, quand on a l'habitude de regarder beaucoup de films, c'est que on sent vraiment que le dialogue entre les plans, c'est déjà fait un peu, ou beaucoup, en tout cas, au tournage. Et que le fait que ce plan soit mis comme ça, là et là, ça résonne entre chaque plan et ça se revoit après au montage. Alors après, au montage, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Je suppose qu'il y a aussi des moments comme ça. Mais on teste, on bidouille, on refait des cuts, etc. Et on arrive petit à petit à faire quelque chose qui tient la route.
Rythme plat, 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 rythme plat. Rythme plat, rythme plat, Rythme plein. Rythme plein. Rythme plein. Rythme plein. Rythme plein. Rythme plein.
Vous surprendre, ça s'appelle Rythme Plat et c'est Mister Oiseau dans VMDN sur RFI. Mister Oiseau, faut-il le rappeler, c'est votre autre identité artistique, Quentin Dupieux, identité musicale, celle-ci. Rythme Plat, c'est votre nouveau maxi qui vient de sortir chez Headbanger Because, une façon de fêter les 20 ans de Flatbeat, un énorme succès de 1999 dans le cadre d'une pub pour une grande marque de jeans américains, avec notamment cette peluche jaune que vous aviez baptisée dans un premier temps Stéphane et qui ensuite est devenue Flat Eric, et dont la tête bougeait comme ça sur les beats. Racontez-nous d'ailleurs comment Stéphane est entré dans votre vie.
Oh, je l'ai raconté tellement de fois, j'ai l'impression d'être...
Oui, mais tout le monde n'était pas là.
Annie Cordy, quoi. Alors, j'y retourne. Je vais essayer de faire ça vite. Non, parce que c'est vrai...
Annie Cordy, qu'on salue et qu'on adore, naturellement.
Bien sûr qu'on embrasse. Non, j'ai fait ce court-métrage donc avec cette marionnette, cette première mouture de la marionnette qui s'appelait Stéphane. J'ai fait donc un court-métrage autoproduit qui n'était qu'un petit clip pour mon deuxième disque. Et puis ensuite, en fait, cette grande marque de slip américain a vu, enfin voilà, une agence leur a proposé mon concept. Voilà, j'y suis pour rien en fait. Hein. C'est une agence qui a aimé ce court-métrage et qui l'a vendu en quelque sorte à Levis. Et donc ensuite, j'ai refait un peu la même chose, comme une carte blanche avec une nouvelle marionnette qu'on a appelée Flat Eric, qui a été co-créée par le Jim Henson Shop.
Donc le Muppet Show.
Le Muppet Show. Voilà. Donc j'ai dessiné le bonhomme et puis ils m'ont aidé à le faire en marionnette. Et c'est devenu des pubs. Et il se trouve que au dernier moment j'ai eu l'idée de faire la musique aussi des pubs, mais très spontanément. Puis j'étais très jeune, donc il y avait même pas encore d'idée à l'époque. J'étais très naïf. Je savais même pas que j'allais en tirer un bénéfice, quoi. C'était vraiment c'était assez naïf comme démarche. Et puis il se trouve que voilà, ce morceau, en fait, on pensait même pas que ça allait sortir, puisque c'était une espèce de petite boucle complètement débile. Et puis finalement, il y a des mecs en Angleterre qui faisaient des bootlegs, qui samplaient la télé pour sortir ce morceau sur vinyle à l'époque, puisque c'était comme ça que les DJ jouaient dans les boîtes de nuit. Donc on s'est dit, bon, il y avait un espèce de phénomène qui démarrait, donc j'ai sorti ce disque, mais qui n'était pas... voilà, et c'est devenu une sorte de tube en Europe...
Voilà, et donc là, Rythme Plat, surfer 20 ans après sur ce succès, c'est juste un petit clin d'œil
ou... Ah, c'est ça. Alors vraiment, c'est en toute... voilà, je parlais d'Annie Cordy, c'était pour me moquer de moi-même. C'est-à-dire que le comeback, enfin l'espèce de... La célébration d'un tube 20 ans après, c'est un tout petit peu ridicule. Pour pas sortir des remixes, parce que ça aurait été un peu laid, parce que de toute façon, je trouve que la version originale est superbe et... Enfin, elle est authentique, quoi. Et ça sert à rien de faire des remixes. De toute façon, il y en a déjà eu 50 000. Donc en fait, c'était plutôt une façon de faire un petit clin d'œil aux gens qui me suivent, mais sans prétention, quoi. Et puis voilà, enfin j'ai mis tout mon amour dans ce disque qui est un 4 titres. Mais c'était vraiment, j'aimais bien l'idée de sortir un disque à la date anniversaire, la vraie date anniversaire, rigoureusement 20 ans après. Je trouvais ça chouette pour moi, ça marquait une étape.
Alors, au cinéma, éviter le rythme plat, vous voyez, j'ai vraiment bossé ma transition Yannick Vallée, c'est l'une des ambitions du montage, hein. On est d'accord, donc vous détaillez les étapes, les principales techniques dans votre grammaire du cinéma. Le montage, c'est d'abord une histoire de narration ou d'abord une histoire de rythme?
Je pense que c'est les deux à la fois, c'est qu'on sert la narration, donc entre autres le scénario, mais en faisant attention au rythme. Alors, on fait pas forcément attention au rythme. C'est toujours la même chose. C'est des choses qui sont intuitives. C'est-à-dire qu'on va monter des plans et puis on va sentir qu'à un moment il faut couper là et pas trois images avant. Mais c'est des choses qui se sentent quand on voit les images qui bougent devant sur un écran. On sait, il y a une image là, il y a une image là, il y a deux plans qui se suivent. Pouf, on sait qu'on va couper là et pas avant ou pas après. Mais c'est vraiment une histoire de rythme, oui. Alors un rythme, ça peut être un rythme plat. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de, justement, sans rythme. Au niveau du montage, par exemple, ça peut être un plan séquence qui dure 10 minutes, qui soit un travelling très très lent. Il n'y aura pas de rythme au niveau du montage, mais le rythme, il sera donné à l'intérieur du plan.
Alors vous, Quentin Dupié, vous avez l'air d'aimer un peu les temps qui parfois ralentissent. En tout cas, dans ce film-là, il n'y a pas vraiment des plans de contemplation. C'est pas tout à fait ça, mais ça participe un peu du sentiment de solitude que ressent le personnage de Georges. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, même lors des scènes de rencontre, que les personnages sont un peu sur un fil, qu'il y a une forme d'observation avant que les mots ne sortent finalement des bouches. Et ça,
mais comme dans la vraie vie, en fait.
Comme c'est dans la vraie vie, oui.
Voilà. Parce qu'en fait, en parlant de rythme, au cinéma, on a tendance à sur-rythmer parce qu'on a peur de l'ennui. Il y a un truc, voilà, c'est depuis la télé, on a peur d'ennuyer les gens. On se rend compte qu'il y a plein de vieux films classiques qui sont extrêmement lents et ils nous paraissent vieux maintenant parce qu'ils sont lents. Mais en fait, cette accélération des images, en fait, moi, je suis pas certain que ce soit productif. Enfin, il y a encore une fois, il y a plein d'excellents films dynamiques, etc. Je suis pas en train de dire qu'il faut tous faire comme moi, mais en tout cas, ma lecture de tout ça, c'est qu'en fait, on a tendance à fausser les interactions, par exemple entre deux personnages, puisque là, on parlait de ça, d'un dialogue, en mettant du rythme. Et moi, j'ai depuis donc ce film Au Poste là que j'ai tourné il y a deux ans avec Poulvord et Grégoire Ludig. Je m'amuse en fait à garder le rythme. C'est-à-dire que le rythme, il est dans la comédie et au montage, je ne change pas le rythme des comédiens. C'est-à-dire qu'en fait, le rythme, on le travaille sur le plateau et on cherche cette espèce de truc un peu flottant parfois où il y a des temps et où en fait, comme dans la vraie vie, les réponses viennent pas tout de suite dans la tête. Et puis on laisse un peu les comédiens vivre avec quand même un texte écrit, mais avec des temps. Et bien au montage, j'ai pris l'habitude là de conserver ces temps et de les respecter parce qu'en fait il y a un truc qui se dégage, je trouve, de l'acting et de la façon que les comédiens ont d'incarner les personnages, que je trouve plus fort que le montage.
Voilà. Alors il y a deux types de réalisateurs. Yannick Vallée, c'est ce que vous dites dans votre livre, ceux qui alignent les heures de rush et ceux qui filment utile, hein, c'est l'expression que vous utilisez. Quentin utile. Dupieux appartient à quelle catégorie?
Ben,
c'est peut-être à lui de
ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Bah,
c'est plutôt utile.
Bah oui, non, puis moi en plus voilà, moi j'ai pas du tout ma méthode, elle n'est que, je le disais hors antenne là, effectivement comme je monte mes films, j'ai un esprit montage, donc en fait quand j'ai
vous savez où vous allez quoi.
Oui, exactement. Et quand j'ai suffisamment d'images pour ma scène, je vais pas m'amuser, même s'il me reste 3 heures, je vais pas m'amuser à continuer encore à épuiser les comédiens pour faire plus de plans.
Mais alors les autres, ceux qui utilisent l'autre technique, si j'ose dire, donc ceux qui ne filment pas uniquement utile, hein, Yannick Vallée, et donc qui alignent comme ça les heures de rush. Après, il y a un vrai travail de puzzle à faire. Réaliser un film, ou plutôt le monter, c'est assembler des éléments et lui donner un ensemble cohérent.
Oui, voilà, lui donner un ensemble cohérent. Et là, Quand on tourne utile, la cohérence, elle est en rapport direct entre ce qui a été tourné et ce qui est monté. Il n'y a aucun problème pour garder une vraie cohérence dans le film jusqu'à la fin, même jusqu'au mixage et tout ça. Quand on a tourné trop, beaucoup trop, la cohérence, elle se dilue un peu. Et après, si on met 3 monteurs différents, on aura 3 montages différents. Après, tout dépend le degré d'implication du réalisateur là-dedans.
Oui, alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Bon, Quentin Dupieux est le monteur du film. Vous êtes l'unique monteur.
Oui, de tous les films.
Vous faites tout. Ouais. De A à Z, vous-même, quel est justement le rôle du monteur, ou des monteurs, parce que vous venez d'employer le pluriel, Yannick Vallée, dans le résultat final? Dans quelle mesure le film que l'on voit est celui des monteurs, parfois autant que du réalisateur?
Ouais, ça dépend du réalisateur, en fait. Soit le réalisateur n'est pas du tout impliqué dans son montage et il laisse faire le monteur. Et le monteur, c'est soit quelqu'un qui aime avoir beaucoup de plans, être toujours très speed dans son montage, soit il aime les choses plutôt lentes. Donc après, voilà.
Ça veut dire que le synopsis du départ, il peut avoir considérablement évolué par rapport au produit final.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, par exemple aux États-Unis, le problème du final cut, qu'on a plus ou moins en France, de manière un peu peut-être cachée, mais où effectivement après il y a d'autres gens qui peuvent donner leur avis en disant ah ben non, là cette scène là elle est trop lente, donc on va accélérer un peu les choses, ou cette scène là elle est trop speed, on n'a pas le temps de voir les choses. Donc après on peut faire plein de choses en fait.
Et les producteurs, ils ont aussi ce droit de regard là
ils peuvent avoir. En France c'est pas trop le truc des Français, quoique ça dépend certains, mais aux États-Unis c'est plus comme ça.
Alors, la fin du film, on va pas évidemment la révéler, Quentin Dupieux, mais juste une petite question quand même. Vous aviez cette idée-là avant de commencer à tourner, ou elle s'est imposée à vous? En cours de tournage ou en cours de montage?
Ah non, en cours de tournage, c'est trop... Je l'ai fait une fois, ça. C'est quand j'ai fait mon premier long-métrage qui s'appelait Steak. On est effectivement parti avec Eric Ramsey au Canada, avec donc un scénario complet, dialogué, etc. Mais il manquait la fin. Et en fait, tous les jours, je me disais, bon, faut que je trouve la fin. Et puis donc voilà, ça se voit d'ailleurs quand on regarde le film. C'est une fin un peu rapidos, quoi. Oui. Mais bref, non, ça, je le ferai plus, parce que c'est l'enfer. Et puis parce que, tout est prévu. Donc cette fin, c'était écrit. Et puis, après, vous dire pourquoi le truc a été tranché de cette façon-là.
Parce qu'il fait qu'une heure 17, hein, j'allais dire une minute 17. Une heure 17. Film, c'est alors, quand même assez court pour un film français d'aujourd'hui.
Ah ouais, c'est très court. Et moi, je revendique ça, parce qu'en fait, effectivement, moi, j'ai quand même, j'avais beaucoup de matériel, j'aurais pu faire, plus long, c'est-à-dire qu'il y a même des
Toutes les scènes donc d'avant le blouson.
Ça c'est pas grand-chose, mais c'est surtout il y a même des scènes du film, du cœur du film, qui étaient même des scènes très réussies, qui me paraissaient ralentir le film en fait, et ça faisait durer pour faire durer, et donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien raboter à l'essentiel. Et plutôt que d'enfermer les gens 1h40 dans mon délire, j'aime bien enlever tout ce qui déborde et aller à l'essentiel. Et voilà, c'est ce film-là, il est comme ça, 1h17, et je revendique ce format court. Celui d'avant est encore plus court, il faisait 1h10, je crois. Moi, j'adore ça. En fait, je m'ennuie souvent au cinéma. En fait, même avec de très bons films, je trouve ça souvent trop long, en fait. Voilà.
Voilà, Yannick Vallée, le montage. Donc, vous parlez du final cut, c'est l'une des opérations de ce qu'on appelle la post-production. Après, il y a le mixage. Alors, expliquez-nous déjà ce que c'est que le mixage.
Le mixage, c'est on prend toutes les pistes sonores qui ont été montées, entre autres la musique, les sons directs, les ambiances, les bruitages, enfin plein de choses. Et on met tout ça ensemble en faisant les niveaux, en faisant des sons plus ou moins forts, et on n'en fait plus qu'une piste.
Oui, parce qu'il y a le montage son et le montage image, quoi.
Oui,
c'est quand même deux opérations distinctes.
Ouais.
Alors, le montage, le mixage, et alors après, il y a l'étalonnage. On en arrive encore à un terme extrêmement technique qui peut faire peur. Alors là, pour le béotien, l'étalonnage, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire.
L'étalonnage, c'est très simple. C'est faire en sorte que toutes les images aient à peu près la même densité de lumière, de couleur, etc. Qu'on n'ait pas d'un seul coup une image très très sombre, d'un seul coup une image très très claire, et que ça alterne sans arrêt, ou grise, ou verte, ou bleue, etc. On essaye d'unifier, en fait, tout le film.
Voilà. Et donc, au niveau du montage, il y a aussi un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble effectivement très important, parce que vous en parlez bien dans le livre, c'est la question des raccords. Ça, c'est vraiment l'un des pièges, finalement, du montage.
C'est la base du montage. Le raccord, c'est la base du montage.
C'est-à-dire qu'il faut que ça paraisse complètement naturel, complètement logique, quoi, dans la construction du film.
Voilà. Il faut que la continuité se fasse par les raccords, en fait.
Voilà. Quelle est la grande difficulté du montage pour vous, Quentin Dupieux? Oula, question court, là.
Non, mais parce qu'en fait, j'ai du mal à voir autre chose que du plaisir, en fait, au montage. Après, on rencontre des difficultés, mais en fait, c'est pour ça que je réfléchis, c'est qu'en fait, c'est quasiment ça qui est excitant, c'est quand on est face à une difficulté, quand on est face à une idée qui fonctionne pas, quand on est face à une scène un peu cassée où il manque un plan, c'est là où on a des vraies idées, en fait. Donc, en fait, les problèmes, c'est quasiment ce qui est excitant au montage. Et c'est pour ça que je détesterais tourner avec plusieurs caméras. C'est qu'en fait, avec plusieurs caméras, on a des raccords parfaits tout le temps. Et ça commence à ressembler à des téléfilms, en fait. Donc en fait, non. En fait, moi, la plus grande difficulté au montage, ce serait d'avoir trop d'images.
Merci beaucoup à tous les deux, Quentin Dupieux.
Merci,
Le Dain,
merci.
Demain sur les écrans français. Yannick Vallée, La grammaire du cinéma, chez Armand Colin.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
On va terminer avec une figure qui n'en finit pas de fasciner, celle de Rudolf Nureyev, légende du ballet. Il est le héros du nouveau film de Ralph Fiennes, également en salle à partir de demain. Un film qui s'inspire de la biographie du danseur écrite par son amie Julie Cavano et qui revient sur un épisode marquant de sa vie. En 1961, le prestigieux ballet du Kirov se produit à Paris, étroitement surveillé par le KGB. Nureyev est confronté à un terrible dilemme et il fait le choix de ne pas retourner en Union soviétique. Pour interpréter le personnage, Ralph Fiennes a choisi le danseur ukrainien Oleg Ivenko, qu'Étienne Bouch a rencontré dans sa ville d'adoption, Kazan, en Russie.
Dans la petite salle de son studio de danse, Oleg Ivenko anime aujourd'hui une séance d'étirement. En apparence, son quotidien ne semble pas avoir beaucoup changé. Pourtant, dans quelques jours, Oleg repart déjà à l'étranger. Depuis un an, il sillonne le monde pour promouvoir le film dont il est la vedette. Sans aucune expérience au cinéma, c'est pourtant lui que Ralph Fiennes a choisi pour incarner Rudolf Nureyev. Lorsqu'il a été approché par l'équipe du film, Oleg Ivenko n'y a pas cru une seconde.
J'ai reçu un message via les réseaux sociaux, j'ai pensé que c'était un spam, alors je l'ai effacé. Habituellement, les propositions sérieuses ne circulent pas de cette manière. Deux semaines plus tard, une connaissance est revenue vers moi pour me dire qu'on était intéressé que je passe un essai pour le rôle de Nureyev. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux.
Oleg se retrouve propulsé en tête d'affiche et donne la réplique à des acteurs professionnels. Pour le rôle, le danseur ukrainien doit apprendre l'anglais et perfectionner son russe. Oleg n'avait jamais songé au cinéma. Il se consacre au ballet dès son plus jeune âge et se bâtit un parcours singulier. Quand ses collègues danseurs partent majoritairement étudier dans la ville russe de Perm, dans l'Oural, Oleg décide de faire sa formation à Minsk, en Biélorussie.
Je n'ai pas un tempérament de suiveur. Et puis j'avais noté que les danseurs qui partaient à Perm avaient toutes les caractéristiques des princes, comme on dit. L'extrême souplesse, le pas ample. Je ne fais pas partie de cette catégorie. Par contre, je sais sauter. J'ai la maîtrise technique et sur scène, j'ai le charisme et l'énergie. Comme Nureyev. Sur scène, je cherche à être vivant et non pas à faire la démonstration de mes capacités qui, de toute façon, ne sont pas énormes.
Dans le centre de Kazan, capitale de la République russe du Tatarstan, Oleg Ivenko nous entraîne à l'intérieur du théâtre tatar Moussa Djalil, un édifice qui conjugue architecture soviétique et motifs orientaux. Oleg en est aujourd'hui l'un des danseurs vedettes. À la fin de ses études, il est invité à rejoindre différentes institutions, notamment en Europe, mais il fait le choix de s'installer à Kazan.
En 2010, j'ai été engagé par le directeur artistique de ce théâtre. Cela fera bientôt 10 ans que je travaille ici. Je suis aujourd'hui premier danseur après avoir débuté dans le corps de ballet. J'ai toujours voulu travailler en Russie. À l'époque, j'avais reçu 10 propositions, dont une de l'Opéra de Vienne, mais j'ai toujours pensé que la Russie était le pays de référence de la danse classique.
Il y a un monument à Nureyev devant le théâtre, pourquoi ?
Nous organisons à Kazan le festival de danse classique Rudolf Nureyev. Et Nureyev lui-même avait accepté de donner son nom à cet événement. Pour moi, c'est très symbolique. J'ai joué son rôle, je travaille au théâtre de Kazan, où il a dirigé un spectacle à la fin de sa vie. Du coup, j'ai constamment l'impression de sentir sa présence ici.
I want to be free.
Oleg Ivenko le répète, il a trouvé en Ralph Fiennes un mentor. Le réalisateur britannique lui a donné sa chance et lui a fait découvrir le cinéma. Sur son bras droit, Oleg garde de cette expérience une trace indélébile, le nom du film en lettres noires. Mais il ne compte pas en rester là. Il a désormais un agent à Londres et pense à la suite. Oleg le sait, la carrière d'un danseur de ballet ne dure généralement qu'un quart de siècle.
Étienne Bouch dans VMDN, une pause, le journal, à demain, vous m'en direz des nouvelles.